Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Ces paroles de Saint Jean-Baptiste à ces Juifs venus l'interroger semblent bien sévères, et elles le sont. Ce peuple dont l'existence, dont l'histoire n'avait de sens que parce qu'il devait engendrer le Sauveur et se mettre à son service, n'a pas été capable, du moins dans sa grande majorité et surtout dans ses chefs, de reconnaître le Fils de Dieu. Leur Messie était au milieu d'eux et ils ne l'ont pas su. Il était devant leurs yeux et ils ne l'ont pas connu. Ils ont été témoins de ses actions, de ses miracles, et n'ont pas su en profiter pour se sauver. Mais ces paroles de Saint Jean-Baptiste sont adressées à nous aussi. Il y a quelqu'un au milieu de nous que nous ne connaissons pas, ou pour parler plus justement, que nous ne connaissons pas assez bien. En chacun de nous existe une pente vers le naturalisme et l'égoïsme. Nous avons une tendance à nous préoccuper de façon beaucoup trop naturelle de choses qui nous touchent personnellement, sans les voir à la lumière de la foi, sans les relier à Dieu. Cette mauvaise pente est aggravée par le climat social délétère dans lequel nous vivons. Ce monde athée et maçonnique, monde organisé scientifiquement pour chasser Dieu de nos vies. Et pourtant, que Dieu soit intimement présent à toute créature est un dogme de foi et en même temps une vérité d'ordre rationnel accessible à tous, qu'il s'agisse du philosophe ou du théologien, ou même encore de l'enfant dont l'intelligence commence à s'éclore et qui reçoit ses premières leçons de catéchisme sur les genoux de sa mère. Dogme de foi. Tout d'abord, car c'est une vérité contenue dans la Sainte Écriture. Saint Paul, notamment, a enseigné cette doctrine aux représentants de la science humaine de son époque, aux membres de l'Aréopage, leur affirmant que Dieu est intimement présent à tous les êtres créés. « Dieu n'est pas loin de nous, écrit-il, car nous vivons, nous nous mouvons, nous existons en lui. » Le psalmiste, plusieurs siècles auparavant, avait aussi enseigné cette omniprésence divine. « Seigneur, chantait-il, vous connaissez tout, l'avenir le plus lointain comme le passé le plus reculé. Vous m'avez formé et vous avez passé votre main sur moi. Où irai-je pour me dérober à votre esprit? Et où m'enfuirai-je de devant votre face? Si je monte au ciel, vous y êtes. Si je descends aux enfers, vous êtes présents. » Mais la droite raison nous convainc également de cette présence de Dieu en toutes choses. Non pas dans ce sens que Dieu serait présent dans les êtres à la manière d'une substance matérielle qui se morcellerait en une multitude de parties ou comme un liquide dans un vase, mais bien plutôt dans ce sens que Dieu est présent en toutes choses comme la cause ultime de leur existence. La cause ultime de leur existence. Et cette vérité d'ordre philosophique est des plus importantes et a des conséquences immenses pour notre vie spirituelle. En effet, première conséquence, si Dieu est présent en toute chose en tant que cause, alors il est absolument distinct de sa création, ce qui élimine d'un coup toute conception panthéiste de l'univers, qui mettrait Dieu dans la matière, ou pire, ferait de la matière le seul Dieu qui soit, la seule réalité, le seul principe. C'est ce que promeuvent actuellement toutes les conceptions écologistes modernes. Et si l'on suit ce chemin, les fruits en morale sont catastrophiques. Il conduit à une conception de la vie complètement sensualiste et hédoniste. C'est le monde dans lequel nous vivons, pour qui ne compte que les plaisirs des sens et de la chair. Première conséquence, pas de panthéisme. Deuxième conséquence, si tout ce qui existe n'a de raison d'exister qu'en Dieu, alors la création matérielle, elle aussi, a été créée par Dieu et ne peut être en soi mauvaise en tant que création, ce qui réfute toute conception manichéenne du monde, conception selon laquelle un principe bon et un principe mauvais s'affronteraient à égalité, ce qui est spirituel relevant du principe bon et ce qui est matériel relevant du principe mauvais. Non pas qu'il faille adopter un mode de pensée maçonnique, selon lequel tout serait tolérable. Rien ne serait mauvais, hormis l'intolérance catholique, bien sûr. Bien au contraire, il y a une distinction très nette entre le camp de Dieu et le camp du diable. Mais il ne faut pas non plus mettre ces deux camps à égalité. Même si les ennemis de Dieu semblent triompher, qu'ils agissent comme s'ils étaient les égaux de Dieu, lui seul est le vrai maître du monde et le vrai maître de l'histoire. Et ceux qui commettent le mal, ceux qui se sont mis sous la coupe de Satan pour faire le mal, seront châtiés par Dieu. Il y a un enfer et il n'est pas vide. Troisième conséquence, très importante pour nous. Si Dieu est le seul être qui n'est pas de cause, il est par là infiniment au-dessus de nous. On parle en philosophie d'ens a se, ens, un être, a se, par lui-même. Dieu est l'être qui n'a pas de cause, qui est par lui-même. Et on parle pour la création, pour les créatures, d'ens, ou au pluriel, densia, ab alio. Ens ab alio, être par un autre. Et cet autre, c'est Dieu. Dieu est, point. Rien d'autre n'est à ajouter. Nous, nous sommes par Dieu. Nous sommes causés par Dieu. Ce qui est pour nous un fondement des plus sûrs et des plus stables pour notre humilité. Nous ne sommes absolument rien sans Dieu. Tout ce que nous sommes, mais vraiment absolument tout, sans aucune exception, nous le recevons de lui. Nous n'avons rien en propre, hormis le péché. Quatrième conséquence. Et dernière conséquence, et c'est celle qui nous intéresse surtout aujourd'hui. Dieu qui produit et maintient toute créature dans l'existence est donc présent dans tous les êtres. Et nul ne peut se soustraire à cette présence. Lui-même ne peut se retirer sous peine d'anéantir sa création. Dieu est ainsi au-dedans de tout ce qui existe. Il est là au plus intime, encore une fois, en tant que cause. Sur cette dernière conséquence, les théologiens subdivisent cette omniprésence de Dieu de trois façons. Il est ainsi dans ses œuvres tout d'abord par essence, parce qu'il est présent à toute chose comme cause universelle de leur être, comme nous l'avons dit, par essence comme cause universelle. Deuxièmement, il est présent par puissance, parce qu'étant cause de toute chose, tout est soumis à sa volonté. Nous sommes entièrement dans le pouvoir de Dieu. Essence, cause universelle, puissance, nous sommes soumis à Dieu entièrement. Troisième mode, par présence. Parce qu'à nouveau, étant cause de tout, tout ce qui existe, toute chose, est nécessairement à découvert et comme à nu à ses yeux. Dieu connaît tout. Arrêtons-nous plus particulièrement sur cet aspect. Dieu voit en effet toute chose en elle-même. Tout est toujours présent à ses yeux et tout à la fois, sans succession et sans interruption de temps. Nous, de notre côté, nous ne voyons que le dehors des choses. Et nous ne pouvons pas pénétrer dans le dedans. Les pensées de l'esprit, les mouvements du cœur nous sont inconnus, parce qu'ils ne tombent pas sous les sens. Dieu, lui, voit et le dehors et le dedans. Il pénètre jusqu'au fond de nos pensées, et les moindres mouvements de notre cœur sont ouverts à ses yeux. Comme dit l'Écriture, Dieu sonde les reins et les cœurs. Ces considérations devraient beaucoup nous aider à penser davantage à Dieu. Tout ce que nous faisons est connu de lui. Comme disait le psalmiste que nous avons cité plus haut, « Où irai-je pour me dérober à votre esprit ? Et où m'enfuirai-je de devant votre face ? Si je monte au ciel, vous y êtes. Si je descends en enfer, vous êtes présent. » D'autant plus que ce regard de Dieu n'est pas celui d'un juge sévère, mais bien au contraire, c'est un regard paisible et aimant qui nous pousse à la générosité dans la vertu, à la pénitence aussi si nous sommes coupables. L'homme a une tendance à se cacher pour faire le mal, mais c'est peine perdue. On peut tromper les hommes, mais jamais Dieu. Dieu à qui rien n'échappe, absolument rien. De façon ordinaire, Dieu est donc présent à toutes les créatures, et il appartient à l'ordre du monde que les choses soient ainsi. Retirer Dieu de l'explication du monde et tout devient absurde. Le monde est sans explication. Tenter d'expliquer l'ordre de l'univers sans Dieu n'est autre chose que de la folie. Cependant, il existe un autre mode de présence de Dieu ici-bas, un mode non plus ordinaire mais spécial, en vertu duquel Dieu n'est pas dans toutes ses créatures. Seuls certains hommes en bénéficient, à condition d'être en état de grâce, c'est-à-dire d'être unis par les vertus de foi, d'espérance et de charité. Quand Dieu est ainsi présent dans une âme, il devient un objet connu et aimé surnaturellement. Cette présence spéciale de Dieu n'est possible que par un don de Dieu, par la grâce sanctifiante. Dieu n'est alors pas seulement présent comme créateur, comme cause, mais il est dans l'âme en personne, comme un hôte et un ami. On ne dit plus alors que Dieu est présent, mais qu'il habite dans l'âme des justes. Dieu se complaît à faire sa demeure dans les âmes qui lui sont unies par l'amour. Ce mode de présence est un motif bien plus important pour nous pour penser à Dieu. Car cette présence spéciale de Dieu est un avant-goût du ciel. Elle met dans notre âme la vraie paix intérieure. Car par la foi, cette adhésion infaillible à l'autorité de Dieu, par l'espérance, cette confiance certaine dans les secours de Dieu pour faire notre salut, et surtout par la charité qui nous fait aimer Dieu plus que nous-mêmes, tous les tracas, tous les ennuis, toutes les croix paraissent peu de choses, à condition, bien sûr, de vivre dans cette présence amoureuse et confiante de Dieu. Sœur Élisabeth de la Trinité, cette carmélite morte à 26 ans, qui s'est particulièrement sanctifiée en contemplant et vivant du dogme de l'habitation de la Trinité dans son âme, avait l'habitude de parler du ciel de son âme où Dieu réside, le ciel de notre âme où Dieu habite. Et elle ajoutait que la vie chrétienne, c'est Dieu en nous. La vie chrétienne, c'est Dieu en nous, rien d'autre. Si cette habitation de Dieu en nous était à nos yeux comme pour elle, l'événement le plus considérable et le plus digne d'attirer notre attention, serions-nous si fréquemment, si longtemps sans penser à Dieu? Et Don Chotard nous pose cette question. N'est-ce pas de cette inattention que proviennent nos piétinements dans la grande œuvre de notre sanctification? La question est posée. Grande importance pour nous de penser à ce double mode de présence de Dieu. En tant que créature, Dieu est cause de ce que nous sommes. Et si nous sommes en état de grâce, Dieu habite en nous par la grâce. Mais il y a d'autres moyens qui nous aideront à vivre en présence de Dieu, outre cette attention de l'esprit. En premier lieu, de vrais temps de prière, prière du matin et du soir, absolument nécessaire. Le chapelet aussi, demandé à tant de reprises et de façon si insistante par Notre-Dame et auquel elle a promis tant de grâces. Tant de prières au cours desquelles il nous faut prendre le temps de nous recueillir. Rien de plus nuisible que de se transformer soi-même en moulin à prière, débitant des prières l'esprit complètement ailleurs. Au contraire, cherchons surtout à nous adresser à quelqu'un de bien réel, au bon Dieu, à la Sainte Vierge ou encore à un saint, à nous mettre en leur présence quand nous les prions. Dans cet esprit, la pratique des oraisons jaculatoires, ces petites prières qui sont comme des javelots que nous lançons vers Dieu, d'où leur nom, nous aideront à nous rappeler cette habitation toute d'amour de Dieu en nous. Elles sont très importantes, surtout sous la forme de demandes, de prières de demande, pour vivre dans la dépendance amoureuse aux grâces de Dieu et à l'intercession de Marie. La lecture également est absolument nécessaire pour vivre en présence de Dieu. Il est impossible d'avoir une vraie vie spirituelle sans se nourrir l'esprit, et par l'esprit le cœur, de considération sur Dieu, sa vie intime, ses dons, la façon de lui plaire, sur notre Seigneur, ce qu'il est, ce qu'est notre Seigneur, sa mission rédemptrice, sur Notre-Dame, sa place dans l'économie du salut, sur les saints, leur vie admirable, leur vertu, leur générosité à porter la croix. Mais surtout, le grand moyen pour vivre en présence de Dieu est la garde du cœur. La raison en est qu'elle va directement à la source la plus ordinaire et la plus fréquente de nos dissipations, qui est dans nos passions et dans notre activité. On revient facilement à Dieu quand les distractions n'ont leur source que dans l'esprit. C'est beaucoup plus difficile lorsque quelques passions, la peur, la colère, l'envie, nous tirent loin de Dieu. Si nous sommes en paix, alors nos pensées, comme celles de Dieu, ne seront que des pensées de paix. Que ce quelqu'un qui est au milieu de nous, comme créateur, comme rédempteur, comme sanctificateur, soit donc de plus en plus connu de nous, aimé de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.